Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et il est de retour avec son short et ses baskets, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bien équipé parce que troisième semaine que vous consacrez à l'Europe du sport. Vous avez retracé les grands moments de l'histoire du sport en Europe. Il me semble que vous nous avez annoncé la semaine dernière un sujet et un mariage plus sérieux pour aujourd'hui.
Tout à fait. Et je voudrais consacrer cette chronique aux relations que, depuis son invention, disons moderne, dans l'Angleterre du 19e siècle, le sport a entretenu avec la politique, avec l'argent aussi. Je m'en tiendrai bien sûr au territoire européen, même si le phénomène dépasse aujourd'hui largement nos frontières. Une citation pour commencer. Le sport doit rester apolitique au sens d'indépendant à l'égard des pouvoirs politiques et économiques. C'est ce que déclarait en 2007 Henri Serrandour, alors président du Comité National Olympique et Sportif français.
Mais vous nous avez dit, je crois, dans les chroniques précédentes, que cet impératif n'avait pas forcément toujours été bien respecté.
Oui, car derrière la promotion du sport, de l'activité physique et de la compétition se cachaient souvent des motivations autres que celles de la santé et de l'épanouissement personnel. Les Jeux Olympiques de la Grèce antique, nous l'avons dit, étaient des moments de trêve guerrière. À Rome, on sait combien les Jeux du cirque participaient à la glorification de l'ordre établi, et dans l'Angleterre victorienne, dont j'ai parlé, hein, qui était notre sujet la semaine dernière, les valeurs nationales, sinon nationalistes, ont été pour beaucoup dans l'émergence du sport moderne, dans les grandes écoles britanniques, mais aussi dans les milieux populaires. Le sport peut être en même temps un vecteur de fraternité et de dépassement des tensions. L'Europe en a offert quelques exemples, et le plus étonnant est celui de l'équipe d'Irlande de rugby composée sans distinction d'Irlandais de la République d'Irlande et d'Irlandais du Nord, même après la séparation de 1949 et le conflit qui a empoisonné cette île pendant des décennies. Mais les exemples d'un sport devenu, j'ai trouvé la formule particulièrement pertinente, une continuation de la guerre par d'autres moyens sont, hélas, plus nombreux.
Alors, est-ce que vous nous en présenteriez quelques-uns ?
Oui, bien volontiers. Et je ne m'en tiendrai ici qu'à l'histoire récente et au territoire européen. Je citerai de nouveau un des responsables du mouvement olympique, quelqu'un dont nos auditeurs se souviennent probablement, l'ancien président du CIO, Juan Antonio Samaranch, qui déclarait en 1975 « Nul doute que les compétitions sportives et en particulier les Jeux Olympiques reflètent la réalité du monde et constituent un microcosme des relations internationales. » Un mouvement olympique qui, rappelons-le, à sa renaissance en 1896, se voulait comme un moyen de pacifier les rapports entre les nations. Or, ces mêmes JO ont été utilisés rapidement, on le sait, comme un moyen pour certains régimes autoritaires de légitimer leur pouvoir et de démontrer au reste de l'Europe la supériorité de leur régime sur les démocraties. En 1934, la victoire de l'Italie à la Coupe du Monde de foot est présentée comme celle du Duce. Et deux ans plus tard, on sait que les Jeux Olympiques de Berlin, pour lesquels le pouvoir avait mis en place des infrastructures impressionnantes et une mise en scène criante, sont comme le couronnement de Hitler. On sait également que ce dernier fut assez contrarié par la victoire des sprinteurs afro-américains. Le sport est donc devenu, au cours de ce tragique XXe siècle, une arme diplomatique au service le plus souvent des nationalismes, mais aussi des idéologies dominantes. Après-guerre, l'URSS en a fait la démonstration.
Au service, je suppose, de l'idéal communiste.
Au début, la toute jeune URSS refusait de participer aux compétitions internationales, trop modelées, disait-on, sur le système de concurrence capitaliste. Puis, Staline a vite compris que les compétitions pourraient permettre de servir les intérêts de l'URSS en les utilisant comme instrument de propagande pour renforcer le prestige du régime et montrer la soi-disant supériorité du communisme sur le capitalisme. C'est le cas aussi de ses satellites, comme la RDA, la République démocratique allemande, dont le nombre de médailles olympiques est bien supérieur à celui de la sœur ennemie, la RFA. On sait aujourd'hui que les performances des athlètes est-allemands n'étaient pas toujours parfaitement bio.
C'est joliment dit. Est-ce que le sport, du coup, est aujourd'hui encore utilisé à des fins politiques ?
Peut-être de façon plus discrète, de la part des États européens tout au moins. On sait tout de même que Vladimir Poutine a beaucoup misé sur l'organisation des JO d'hiver à Sotchi en 2014 et sur la Coupe du Monde de football en 2018. Une des manifestations les plus fréquentes de l'utilisation politique du sport reste toutefois le boycott. Comme l'ont utilisé en 1980 et en pleine guerre froide les USA pour les Jeux de Moscou et en 1984 l'URSS pour les JO de Los Angeles. On sait aussi que très récemment, lors de la dernière Coupe d'Europe de football, des polémiques sont apparues suite à la décision de certaines équipes nationales de mettre un genou à terre en solidarité avec le mouvement américain Black Lives Matter. Ainsi, comme l'affirme Pascal Boniface dans un livre très intéressant intitulé « Géopolitique du sport », je le cite, « Le sport est devenu le nouveau terrain d'affrontement, pacifique et régulé, des États. C'est la façon la plus visible de montrer le drapeau, d'exister aux yeux des autres et d'être présent sur la carte du monde. » Je voudrais ajouter aussi que les enjeux du sport ne sont plus seulement politiques, mais économiques. Et là, nous dépassons le cadre de la seule Europe. La mondialisation des compétitions sportives et de leur diffusion engage d'énormes enjeux financiers. Certains considèrent même que le sport actuel permet à la société de consommation de diffuser et d'imposer sournoisement son idéologie. Et il est vrai que les sports les plus populaires, donc les plus diffusés, sont devenus en Europe et dans le reste du monde des outils politiques et économiques majeurs.
Et les yeux rivés sur 2024, évidemment, avec les JO en France.
Oui.
Nous, on est arrivé au terme de cette troisième chronique consacrée à l'Europe du sport. Est-ce que vous nous proposerez encore un petit quelque chose la semaine prochaine ?
Oui, une dernière chronique dont le titre pourrait être « Existe-t-il un sport européen ?»
Ah, bonne question.
J'y parlerai aussi de la politique sportive de l'Union européenne.
Bon, eh ben on fait comme ça, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, Jean-Pierre, bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.